Salut, je suis Léo Grasset, vous êtes sur Dirty Biology et aujourd'hui vous allez découvrir un schéma qui va changer votre vie. Ou en tout cas, votre façon de penser à la vie qui vous reste. Cette grille est votre existence tout entière. Chaque case de ce damier représente une semaine et une ligne de 52 carrés représente une année. Admettons que vous viviez jusqu'à 90 ans. C'est une hypothèse généreuse parce que l'espérance de vie en France à 20 ans est plutôt de 65 ans pour les femmes et 60 pour les hommes, mais essayons d'être optimistes et de faire confiance au progrès de la médecine et misons sur 90 ans pour tout le monde. 90 lignes de 52 cases donc. La première case du damier, tout en haut à gauche, était la première semaine de votre existence, où vous n'avez honnêtement pas fait grand-chose d'intéressant. Tout ça représente l'école primaire, ça c'est votre collège, ça c'est le lycée, et ça, c'est le moment où vous allez probablement mourir. Spoiler. Avec mes quelques 30 ans, voici donc à quoi ressemble ma vie passée et future. En faisant un rapide calcul, on peut se rendre compte que l'âge moyen des spectateurs de la chaîne est autour de 30 ans, donc en parlant de moi, je parle un peu de vous aussi au final, et il reste 60 ans à vivre à ce spectateur moyen, à peu près. Pour cette vidéo, je vais faire le cobaye, mais je vous encourage vraiment à remplir cette grille de votre côté. Donc, voilà ma vie. Je suis devenu majeur ici, j'ai fait des études pendant ces carrés-là, j'ai commencé la chaîne YouTube en Thaïlande à ce moment-là, je me suis installé en France, j'ai ricané sur les mêmes à peu près tout le temps, j'ai vécu des ruptures très dures, des moments de joie très forts, du seum, des fiertés, bref, rien que du très très classique, et me voilà donc à ce carré au moment de la sortie de la vidéo. Cette visualisation me permet de dire qu'il ne me reste plus que 58 fois où je pourrais redécouvrir le plaisir des apéros interminables au printemps, ou 58 hivers pour essayer de devenir suffisamment bon en snowboard pour réussir à poser un backflip autrement que sur ma tête. Il me reste aussi à peu près 11 élections présidentielles pour lesquelles voter ou m'abstenir d'ailleurs, et à peu près 14 coupes du monde de foot devant lesquelles crier ironiquement « Allez le ballon !» Ouais, ce genre de mec, ouais. À raison d'un livre de fiction tous les mois, il me reste tout ça à lire d'ici la fin de ma vie. Faut que je choisisse bien. J'aurai encore beaucoup trop d'opportunités de tuer mes plantes vertes sans le vouloir, et je ne vais décidément pas assez au cinéma. Tout ça vaut pour vous, évidemment, à quelques petites différences près. Vous aurez peut-être plus de livres à lire, moins de pays à visiter, et toujours trop peu de chocolat chaud à déguster sous un plaid en écoutant Lofi Hip Hop Radio Beats to Relax Study 2. Dans tous les cas, ce schéma montre une évidence, nos vies ne sont pas infinies, notre temps est compté, et celui de nos proches aussi. J'ai de la chance parce que je peux voir mes parents à peu près 3 semaines par an, soit 20 jours. Ils ont tous les deux dépassé la soixantaine, et vu la patate qu'ils ont, ils vont sans doute vivre jusqu'à ce que je devienne moi-même tout à fait ridé. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique, donc on dit que tout ce que je raconte est vrai, ça y compris. On dit. J'ai vécu avec eux jusqu'à mes 20 ans environ, donc voici les semaines déjà vécues et celles qu'il me reste à vivre avec eux. La conclusion est claire, il ne me reste qu'une toute petite fraction du temps que j'ai déjà passé avec eux. Même en étant optimiste sur leur longévité, la mienne, ou sur le temps qu'on arrive à se dégager ensemble, la conclusion reste la même. Nous sommes dans les derniers 10% de notre relation, et c'est sans doute votre cas aussi, avec vos proches plus âgés. Ambiance. C'est la même chose, sinon pire en fait, avec ces amis qui vivent loin et que je ne vois qu'une fois toutes les quelques années. Cette visualisation donne complètement du crédit à l'argument de vivre dans le même village que ses potes, au final. Les ruptures, c'est le pire, même celles qui se finissent bien. Elles ont pour effet direct de faire que les semaines à passer ensemble dans le futur ne seront probablement qu'un petit pourcentage du temps déjà vécu ensemble. Au moment où on se dit « c'est pas toi, c'est moi », on pose le premier pas dans les derniers jours qu'il reste à côtoyer la personne, qui était seulement quelques temps auparavant la plus importante de toutes. Cette façon de voir les choses, qui vient du blog Wait But Why, et qui a été reprise abondamment sur internet, est toute simple, mais elle est très puissante pour se rendre compte visuellement de la finitude de notre expérience sur Terre, et elle impose une conclusion évidente. Il ne faut pas attendre pour vivre ces expériences que l'on a un peu trop tendance à remettre à plus tard, ou pour voir les gens qui nous sont chers. Comme le dit Tim Urban dans son article, lorsque vous voyez une personne avec qui vous êtes dans les 10 derniers pourcents de votre relation, traitez ce moment comme ce qu'il est, rare et précieux. Cette vidéo tombera peut-être au même moment que vos bonnes résolutions de début d'année, et comme cette image m'aide beaucoup à me secouer pour faire des choses intéressantes ou pour voir des gens que j'aime, je voulais vous la partager. L'idée n'est pas tellement de vouloir planifier sa vie à la case près comme un manager cocaïné, mais juste de réaliser la finitude de nos expériences et surtout de garder en tête que les autres aussi ont leur propre grille qui se terminera un jour ou l'autre. On dit que lorsque les généraux romains revenaient de campagne et qu'ils paradaient triomphalement dans la rue, ils avaient un serviteur qui leur murmurait à l'oreille « Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir ». Cette grille toute simple remplit à peu près la même fonction. Elle vous rappelle que votre vie est précieuse et que le petit temps en commun qui vous reste avec vos proches l'est encore plus. Ouais, Sauf que les généraux romains ne connaissaient pas la coloscopie. Je m'explique. Cette grille est utile, mais elle ne représente pas vraiment la façon dont nous traversons subjectivement nos existences, comment nous voyons ces cases de l'intérieur, et il se trouve qu'un argument important derrière tout ça vient d'examens médicaux de l'intestin, des coloscopies. Le psychologue et prix Nobel d'économie Daniel Kahneman a interrogé des patients sur leur niveau de douleur tout le long de cette procédure, à une époque où la méthode était moyennement sympathique. Chaque minute, il devait décider si la douleur était gérable ou horrible avec un petit curseur, ce qui a permis de générer ces graphiques, à la fin des longues minutes d'exploration de leur rectum. Quelque temps plus tard, il leur a demandé quels souvenirs ils en avaient gardés, et il a été très surpris. Les patients qui ont subi un examen plus long, mais avec une fin relativement douce, en ont un meilleur souvenir que ceux qui ont eu un examen court, avec donc une somme de douleur totale plus faible sur le moment, mais qui s'est mal terminée. Ce qu'il a nommé la loi de l'apogée fin, et qui s'est vérifié avec de nombreuses autres expériences, c'est que le souvenir d'un événement dépend surtout de quelques moments bien définis, et principalement, sa fin. Une procédure plus douloureuse, avec une meilleure fin, créera un meilleur souvenir, ce qui est complètement paradoxal.
Now, I'd like to start with an example of somebody. He said he had been listening to a symphony, and it was absolutely glorious music. And at the very end of the recording, there was a dreadful screeching sound. And then he added, really quite emotionally, it ruined the whole experience. But it hadn't. What it had ruined were the memory of the experience. He had had the experience. He had had 20 minutes of glorious music. They counted for nothing because he was left with a memory, the memory was ruined, and the memory was all that he had gotten to keep.
Pour Daniel Kahneman, c'est la preuve qu'il existe deux soi très différents en chacun de nous. D'un côté, il y a le soi qui fait l'expérience des choses dans l'instant, donc celui qui subit la coloscopie, le général romain qui parade, ou vous qui trouviez la vidéo un peu poétique, juste avant que ça parle de rectum, et de l'autre, le soi qui s'en souviendra, bien plus tard. Et ces deux soi ne vivent pas du tout les événements de la même façon. Le soi de l'expérience immédiate disparaît à chaque instant qui passe, et tout ce qui reste, tout ce qui nous permet de prendre des décisions, de savoir si on aime ou si on n'aime pas quelque chose, c'est l'autre, c'est le soi qui se souvient. C'est bien ce soi avec une mémoire qui reprend ce type de bière parce qu'il avait bien aimé, qui rappelle cette personne après le premier date, ou qui décide qu'il va s'abonner à cette chaîne YouTube parce qu'elle était cool cette vidéo. Et c'est aussi ce soi qui se souvient qui donne une durée aux événements, rétrospectivement, et tout ça change pas mal la façon de comprendre la grille de notre vie. Prenons deux semaines différentes que vous avez vécues il n'y a pas si longtemps. D'un côté, une semaine du quotidien, et de l'autre, un voyage de la même durée. Le voyage et ses péripéties sembleront prendre plus de place qu'une semaine ordinaire, et rétrospectivement, notre grille ressemble donc plutôt à ça. Des semaines dont la durée est très hétérogène en fonction de ce qu'on y a vécu. Notre cerveau est enfermé dans l'obscurité de notre boîte crânienne et il essaie de recréer une histoire cohérente de ce qui se passe dehors. Il doit synchroniser les différents flux d'informations, qui n'ont pas tous la même vitesse, les catégoriser, les comparer à des souvenirs et les organiser sous la forme d'une histoire cohérente que notre conscience va ensuite intégrer quelques millisecondes plus tard. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, que notre sensation du présent est toujours un petit peu en retard sur les événements du réel, ce qui est fou en soi. Et deuxièmement, du point de vue du cerveau, le temps n'existe pas. Il doit être créé de toutes pièces. Et ça, c'est dingue. On connaît aujourd'hui plusieurs modules dédiés à la création du ressenti des durées à différentes échelles de temps, mais là où je veux en venir, c'est que si le temps vécu est une construction psychologique, ben, ça veut dire qu'il existe un moyen d'augmenter la taille des cases. Regardez cette suite d'images. Laquelle est restée le plus longtemps à l'écran, à votre avis? Lors d'une expérience analogue en laboratoire, les participants choisissent généralement l'image différente. Ici, la plus slave des deux poutines. La surprise générée par ce visage angélique demande au cerveau un peu plus d'effort pour intégrer l'information, ce qui a un impact sur le ressenti de sa durée. En vous surprenant, Vladimir a dilaté le temps. Faire un effort, apprendre quelque chose, ressentir certaines émotions, ou même empathiser avec les émotions des autres, peut aussi influer sur notre perception du temps. Oui, les durées sont contagieuses d'une personne à l'autre. C'est absolument dingue. D'autres études suggèrent qu'avoir de la fièvre étire les durées, ou qu'en vieillissant, on a tendance à estimer que le temps s'écoule de plus en plus vite. C'est plutôt une mauvaise nouvelle, et ça veut donc dire que la grille devrait plutôt ressembler à ça, mais ça n'a rien d'inéluctable. Quand j'étais petit, on faisait beaucoup de travaux en famille pour retaper un bateau sur lequel on a fini par traverser l'Atlantique. Un jour, j'avais reçu la mission d'aller visser un truc sur la tête du mât et on m'avait tracté en haut. En redescendant, la corde a glissé du coinceur et je me suis retrouvé à faire un plat sur le pont du bateau. Pas de très très haut, donc j'ai rien eu de très méchant, mais le choc m'a coupé la respiration. Impossible d'avaler de l'air pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Même si très probablement ça n'a duré que quelques secondes. Dans cet épisode de Stress Intense, mon cerveau a enregistré énormément de nouvelles informations. La dureté du pont en acier dans mon dos, les poumons vides, mon père qui se précipite en criant, et même l'odeur dégueulasse du Rhône et le cri des ragondins dans le fond. Il y a tellement de données liées à ce souvenir qu'aujourd'hui, en y repensant, mon cerveau part du principe que l'événement a dû se dérouler pendant un laps de temps assez long pour avoir le temps de tout enregistrer. Et il transforme ces quelques secondes en ce qui me semble rétrospectivement avoir duré des minutes. Voilà, j'ai étiré sans le vouloir ma vie ressentie, rétrospectivement. Donc, c'est simple. Si vous voulez grossir vos cases, éclatez-vous la gueule. Plein de fois. J'ai aussi des souvenirs super longs de l'enterrement de ma grand-mère, ou de la fois où un mec a essayé de me couper la tête en Afrique du Sud avec une machette, ou d'une rupture hyper traumatisante. Donc, je sais pas, ça peut fonctionner aussi, hein. Enfin, voilà. En pratique, la clé est de créer de nombreux souvenirs, tous plus nouveaux les uns que les autres, pour que votre cerveau dilate la perception du temps qui s'est passé. Donc, acheter compulsivement un didgeridoo sur internet, regretter instantanément, choper une piscine à boules, regretter instantanément, mettez-vous au synthétiseur modulaire et faites regretter vos voisins instantanément, bref, faites des trucs différents de l'ordinaire. Toutes ces choses feront que votre cerveau devra fournir plus d'efforts pour invoquer ses souvenirs très remplis et vous aurez le ressenti rétrospectif d'une vie plus longue que si les journées s'étaient ressemblées entre elles. Voilà, vous aurez réussi à faire gonfler vos cases. Félicitations. Est-ce que c'est une fin en soi? Je sais pas, mais en y repensant, vous aurez une grille sous stéroïdes. Bref, votre temps est limité et celui que vous pourrez partager avec les gens importants l'est encore plus. Mais vous avez entre les mains un potentiel incroyable pour étirer cette durée qu'il vous reste à vivre. Alors, envoyez ce DM à votre crush, apprenez cette langue, même si c'est chiant au début, brossez-vous les dents en faisant la chaise et mettez-vous à l'estampe japonaise ou au chant diphonique. Écrivez ce putain de roman que vous avez en tête. Pourquoi pas? Parce que bon, le pire qui pourrait arriver, ce serait d'avoir eu une vie marrante à la fin. Prenez soin de vous, abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, et à la prochaine. Salut!